L'été, je vous propose de vous rafraîchir la mémoire en vous offrant quelques-unes de vos émissions préférées issues de notre saison 2013-2014.
La marche du monde.
La marche du monde en reportage à Butare, dans le sud du Rwanda. Nous sommes ici sur le parvis de la cathédrale de Butare, la plus grande église du Rwanda. Et j'aimerais que vous nous disiez, Assumpta Mugiraneza, vous qui êtes cofondatrice de l'ONG IRIBA, qui s'intéresse à la mémoire audiovisuelle du Rwanda, ce que signifie cette ville de Butare dans l'imaginaire rwandais.
Butare, actuellement appelée Ouye, anciennement appelée Astrida, est une ville qui semble avoir passionné les Rwandais et les étrangers qui venaient au Rwanda. Parce que même si c'est tout près de la capitale royale, Nyanza, c'est ici qu'on a installé les écoles, cette église centenaire, mais aussi tout ce qu'on peut voir autour. Donc cette ville de Butare symbolise vraiment cette période de colonisation et de la mission civilisatrice qui allait avec cette action. Elle emporte des attributs parce qu'il y a une grande église, plusieurs grandes écoles, les hôtels les plus anciens et bien sûr l'université nationale, la première qui a été installée au Rwanda. Même si Butare reste petit, c'est une ville quand même qui compte dans la vie des Rwandais.
Puisque nous évoquons justement cette tradition culturelle, intellectuelle et catholique ici à Butare, on pourrait lire, je crois, la plaque qui est posée sur l'église principale de Butare.
De Butare, anciennement Astrida, selon la volonté de la colonisation, parce qu'à une époque, la reine Astrid de Belge est venue ici. Et donc, cette ville a reçu le nom de la reine de Belge, qui était considérée comme la mère de l'Afrique et d'Europe. On peut lire ici, à la douce mémoire de Sa Majesté Astrid, reine des Belges, mère aimée de son peuple d'Europe et d'Afrique, donc y compris le Rwanda.
La marche du monde, Valérie Nivelon.
C'est donc à Butare, capitale intellectuelle du Rwanda, que je découvre la plus grande église du Rwanda, mais aussi la toute nouvelle université catholique fondée par le diocèse de Butare. C'est ici que le grand historien Faustin Rutenbessa participe à la reconstruction de son pays, 20 ans après le génocide des Tutsis. Faustin Rutenbessa s'interroge sur la façon dont le racisme est devenu une idéologie. Professeur ici, à Butare, Faustin Rutenbessa a imposé l'étude du génocide à l'université.
Le génocide. Alors, il y a des études extraordinaires qui ont été faites à ce sujet, qui montrent comment l'histoire a été écrite depuis les Allemands et depuis les Belges. En passant par les élites rwandaises, en passant aussi par les institutions d'enseignement supérieur qui existaient à l'époque, tout cela provoque une réaction qui peut se résumer en ces termes. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de penser autrement? Pour moi, c'est sortir des sentiers battus, de ces évidences. C'est tout cela qui m'a poussé à faire inscrire l'étude du génocide dans les programmes de nos universités.
Faustin Rutenbessa, cette construction ethnique, il faut rappeler qu'à l'époque, le mot ethnie veut dire race en fait. Quelle est la part de l'Église catholique dans cette construction raciale, raciste?
Je n'aime pas parler en termes d'Église, parce que ça généralise. Mais les premiers missionnaires ont été, je pense, les bâtisseurs de cette construction, de cette vision d'un Rwanda peuplé de trois races différentes. Un des premiers, à mon avis, à avoir déconstruit ce schéma, c'est Jean-Pierre Chrétien, qui a montré l'idée de race dans la littérature de la fin du 19e siècle et 20e siècle, qui a façonné la plupart des pères blancs qui ont été les premiers missionnaires dans ce pays. Et quand je dis les pères blancs, ce n'est pas tous les pères blancs. Quelques rares pères blancs qui pouvaient écrire, diffuser, l'ont fait. Certains en prenant parti pour les Tutsis, mais les Tutsis comme une race supérieure avec laquelle il fallait gouverner. D'autres prendront les Hutus comme une race exclue qui a subi énormément d'injustices et qui doit aussi prendre, pour ainsi dire, sa revanche. Voilà, c'est dans ce sens, c'est dans cette construction, dans cette vision que les missionnaires et plus tard certains prêtres rwandais, certains évêques rwandais se sont engagés.
Penser autrement, déconstruire les idées reçues, chercher à comprendre l'histoire longue du Rwanda, c'est aussi la démarche de Jean-Pierre Chrétien, directeur de recherche émérite au CNRS. Il étudie depuis plus de 50 ans la région des Grands Lacs.
Moi, en tant qu'historien, ayant suivi le passé précolonial puis colonial de ce pays, c'est cette idéologie de race que je connaissais bien, si j'ose dire, depuis un certain nombre d'années, parce qu'elle m'avait interpellé et j'avais travaillé dessus, qui m'inquiétait, qui me faisait redouter le pire et qui m'a donc amené très vite, en avril 1994, à dire qu'il s'agissait d'un génocide.
Et dans son dernier livre, intitulé « Racisme et génocide », coécrit avec Marcel Kabanda, Jean-Pierre Chrétien retrouve les origines de l'idéologie raciste au Rwanda.
Chaque fois en Afrique, on s'est trouvé, notamment en Afrique orientale, devant des populations organisées politiquement, et là, il y avait le royaume du Rwanda et les autres dans la région, qu'on voyait des gens qui n'avaient pas un physique correspondant aux stéréotypes de ce qu'on appelait pas à l'époque banania, mais plutôt noir de débit de tabac, parce qu'il y avait aussi des caricatures à ce niveau-là dans le commerce, en Europe. Donc, on disait, le vocabulaire de l'époque, hein, mais ce ne sont donc pas des nègres en tant que tels. Ce sont des gens qui sont métissés de sang asiatique. Il y a eu des invasions venues d'Orient, du Proche-Orient, d'Éthiopie, d'Égypte, etc. Et le terme qui s'est diffusé à partir du milieu du 19e siècle, c'est le terme amitique. C'est l'emploi du mot amite comme lignée venue de l'Orient, avec l'idée que la Bible ne parle que de l'Orient. Et donc, quand on dit amitique, c'est comme quand on dit sémitique, ce sont des peuples venus d'Orient. Donc, les aristocraties Tutsi au Rwanda se sont vues investies, si j'ose dire, par ce regard, par cette idéologie, par cette interprétation. Ce n'était pas des nègres en tant que tels, c'était sûrement le fruit d'une invasion venue de l'Éthiopie. Il n'y avait absolument aucune preuve de ça, mais ça a fonctionné avec une force de conviction énorme, c'était répété sans arrêt, et surtout, ça a été mis en application, puisque à l'époque coloniale, pour aller vite, il a été, en fonction de ce discours racial, considéré que tous les Tutsis, pas seulement les aristocrates, étaient d'une race supérieure, qu'ils devaient en conséquence être privilégiés, notamment dans l'accès aux premières formes d'école un peu plus développées au-delà de l'enseignement primaire, et que c'était les Tutsis qui étaient les auxiliaires dans l'idéal, quoi, pour les Européens, puisque c'était, certains disaient, des Européens noirs, les Juifs de l'Afrique, etc. Et donc, que ces Tutsis étaient par définition les auxiliaires que l'on devait employer pour encadrer le pays, pour faire travailler le pays, avec l'idée que les Hutus avaient vocation essentiellement de travailler la terre dans le pays.
On associait richesse et race. Et ça, c'est terrible. Comme s'il n'y avait jamais eu de Tutsis pauvres. Comme s'il n'y avait jamais eu de Hutus riches. Non, c'était systématique. Si vous avez l'occasion de parcourir les archives des pères blancs et de l'administration coloniale, vous trouverez que Tutsi égale pouvoir, richesse. Et Hutu égale pauvreté, ignorance. C'est sur cette pseudo-construction que justement tout s'est fait, tout s'est joué, toute l'histoire du Rwanda, et depuis la colonisation jusqu'à 1994, et qui alimentera justement toutes les colères dites populaires.
Si la classification des Rwandais entre vrais Africains, qui seraient les Hutus, et faux nègres, qui seraient les Tutsis, remonte aux années 1860 dans la littérature occidentale, que s'est-il passé au moment de l'indépendance? Est-ce que les Rwandais n'auraient pas pu se débarrasser de cette idéologie raciste en même temps que du colonisateur belge?
À l'indépendance, nous n'avons pas de gouverneur général. Nous avons maintenant un président de la République. Nous avons des ministres, des députés, etc. Donc, on peut dire qu'il y a eu un remplacement. Mais c'est un remplacement physique. Mais la pensée qui devait sous-tendre, qui devait guider l'action, cette pensée n'a pas été remplacée. Et c'est ça le drame de ce pays. Autrement dit, ceux qui, physiquement ou institutionnellement, ont remplacé le régime colonial, en ont prolongé les idées. Et même aujourd'hui, je ne vois pas de différence. On voit les différences quand on veut les voir.
En ce qui concerne la langue.
La langue, il y a des variantes régionales, mais c'est la même langue. Ça existe aussi en France.
Donc on ne peut pas dire que non. Les gens sont différents.
Absolument pas. Non, ça n'a aucun sens. Les variantes sont exprimées autant par les Hutus, les Batois et les Batoussi habitant dans une région donnée. Ça, c'est très, très important.
Dans votre enfance, qu'est-ce que ça pouvait signifier, justement, Hutu, Tutsi, toi? Cela correspondait à quoi, pour les Rwandais?
À rien. À rien du tout. Je vais vous dire la vérité. Lorsque nous allons parler, lorsque nous prenons la parole, nous sommes conscients que nous allons être mis dans une catégorie. Voilà le drame.
Le mot ethnie, tout comme le mot de génocide, est aujourd'hui utilisé à tort et à travers. Mais comment le définir? Et au Rwanda, peut-on parler d'ethnie en ce qui concerne les Hutus et les Tutsis? J'ai posé la question à Jean-Pierre Chrétien.
Le mot ethnie pose des quantités de questions à travers l'Afrique, mais en l'occurrence, je ne le vois pas employé ni au Rwanda, ni au Burundi, avant les années 1970-80. Avant, pendant les années 60, au lendemain de l'indépendance et sous la colonisation, le mot « race » revenait sans arrêt. Donc, le mot « ethnie » a été employé pour faire plus politiquement correct. Le problème, c'est de savoir en quoi il s'agit d'ethnie, puisque nous ne sommes pas en présence de populations vivant dans des régions séparées, ayant des cultures différentes, ils parlent tous la même langue, ils avaient des croyances semblables, ils partagent la même histoire, celle du royaume du Rwanda, où il y avait des Hutus et des Tutsis dans toutes les régions, plus ou moins selon les régions. Bon, donc, il est difficile, en fait, d'employer le mot ethnie pour caractériser ces appartenances Hutus et Tutsis.
Alors, moi, après l'indépendance, j'ai eu ma première carte d'identité. Alors, ma carte d'identité, il y avait dans le coin gauche les éléments généraux, la photo, la date de naissance, le lieu de naissance, etc. Et le côté droit commençait par ethnie. Hutu, Tutsi, toi ou autre. Voilà, la première carte d'identité que j'ai eue, j'étais officiellement dans telle ou telle catégorie.
Faustin Rutenbessa, est-ce que ces collines que j'ai traversées ce matin pour venir vous voir, où j'ai vu les Rwandais au travail dans les champs, est-ce que cela ressemble au fond à ce que j'aurais pu voir dans les années 50?
Oui, absolument. Les gens se levaient, ils allaient au champ, d'autres allaient au pâturage, les enfants allaient à l'école. Ça n'a pas beaucoup changé. La matinée du Rwandais commence très très tôt. À 5h30, les gens étaient éveillés. Il n'y avait que deux grandes activités, l'activité pastorale et agricole. Et plus tard, il y aura une troisième activité, celle du fonctionnariat, ceux qui travaillaient soit dans des missions religieuses, soit dans l'administration coloniale. Yeah,
RFI, la marche du monde, Valérie Nivelon.
La marche du monde est au Rwanda pour rencontrer Faustin Rutenbessa. Le grand historien revient pour nous sur ces années 50 où différentes formes de nationalisme s'expriment au Rwanda. Sous la tutelle des autorités belges et sans pouvoir aucun, le roi du Rwanda prend tout de même position.
Autour du Mwami, du roi, ce que l'on appelait à l'époque l'administration autochtone, tenait des réunions. Et nous avons des rapports de ces réunions. Et à travers ces rapports, il apparaît que les cadres que l'on appelait à l'époque indigènes commençaient à s'insurger contre l'autorité coloniale. Et le roi lui-même prenait position de plus en plus contre l'autorité coloniale. Parce que même roi ou souverain du pays, il était soumis à un simple résident colonial. Donc, le roi Mutara entretient de plus en plus des relations avec des gens d'autres nationalistes. À côté de nous, il y avait le prince Louis Rwagasore.
Donc au Burundi.
Donc, voilà, ça c'était l'évolution presque générale. Et c'est contre, justement, cette tendance d'autonomie, d'indépendance, de reconstruction nationale. C'est contre cette tendance que naissent d'autres tendances qui sapent la fondation unitaire de nos futurs États.
De quel œil les Belges voient-ils le nationalisme rwandais, sachant que les Belges doivent faire face aux nationalistes également au Congo ou encore au Burundi, voisin du Rwanda ? Jean-Pierre Chrétien.
Les Belges et les missionnaires sont surtout inquiets, bouleversés par ce qui se passe au Congo. Alors le Congo à l'époque de Lumumba. Et dans leur esprit, le nationalisme signifie le communisme. Et donc le péril communiste les amène, un peu comme d'ailleurs dans d'autres régions d'Afrique, à chercher d'autres alliés face aux plus nationalistes. Il se trouve qu'au Rwanda, il y a une contre-élite Hutu, qui souffre de la discrimination qui a privilégié les Tutsis. Et les colonisateurs ont eu, si j'ose dire, l'habileté de gagner la confiance et donc d'appuyer cette contre-élite Hutu en la montant en priorité contre les Tutsis. Donc, tout un courant se développe chez des leaders Hutus consistant à dire il y a deux colonisations emboîtées, celle des Européens et celle des Tutsis qui nous encadrent directement. Et en priorité, il faut faire sauter la colonisation Tutsi. Mais ce courant est soutenu vigoureusement par l'administration belge qui intervient même militairement très vite à la suite d'incidents violents à la Toussaint de 59 et par l'Église. Et encore une fois, l'obsession, c'est le communisme qui amène à soutenir cette élite considérée comme chrétienne. Le problème, c'est que on comprend le jeu qui existait ailleurs en Afrique d'essayer d'opposer une élite à une autre. Le problème, c'est que le discours racial, il n'est pas du tout remis en cause. Il est inversé en quelque sorte. Ça consiste à dire, les Hutus ont raison d'être mécontents, c'est la race autochtone, c'est la race bantoue, face à Amit, on dit ils sont bantous, et ce sont les vrais Rwandais. Donc c'est un renversement consistant à faire des Tutsis des étrangers venus d'Abyssinie, d'Éthiopie, dit-on, tolérés au Rwanda comme au titre de colonisateurs.
Comment est née l'idéologie raciste qui distingue les Tutsis des Hutus ? Quelles violences ont subi les Tutsis depuis 1959 ? Et pourquoi les génocidaires se considèrent comme le vrai peuple majoritaire ? 20 ans après le génocide des Tutsis, les historiens Faustin Rutenbessa et Jean-Pierre Chrétien nous livrent le fruit de leurs recherches. Nous les retrouvons juste après les infos sur RFI.